Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.
Bien, bonjour chers lecteurs et surtout bonjour Pascal Ricard.
Bonjour.
Alors, nous sommes aujourd'hui dans votre librairie. Je dis nous sommes car j'y suis, mais il y a avec moi une collectrice, une éminente collectrice et écrivaine, Hélène Honora. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Et donc, nous sommes dans la librairie qui porte un assez joli nom, qui est une référence, j'imagine, à Rimbaud.
Bien sûr.
Le bateau-livre, référence bien sûr au fameux bateau-ivre de ce cher Arthur. Alors, Pascal Ricard, librairie d'anciens, d'occasion, bouquinerie, comment il faudra appeler le bateau-livre ?
Question un peu difficile, mais pertinente.
Merci.
qui fait débat même entre nous, les professionnels, parce que certains s'estiment avant tout libraires d'anciens. Ils tiennent à ce côté un peu élitiste de la profession, et puis côté aussi l'aspect financier, c'est-à-dire c'est du beau livre, du livre ancien, du livre de collection. Certains de mes collègues ne font que ce type de livre. D'autres se mettent sur les marchés et vendent des livres de poche et seront plutôt des bouquinistes, et, ou alors boutique aussi. Entre les deux, moi, mon cœur balance, c'est-à-dire que j'ai du livre ancien, j'ai beaucoup de livres de poche, comme vous pouvez voir ici, et que je me qualifierais de libraire bouquiniste. Voilà.
Libraire bouquiniste. Alors, je ne sais pas si c'est dans le répertoire national des métiers, mais bon, on va dire que ça y est. Et puis, s'il n'y en a qu'un, ce sera vous, et nous vous aurons rencontré. Alors, comment vous êtes arrivé à vous lancer dans ce métier, on va dire que c'est un métier de libraire bouquiniste. Est-ce que vous n'y êtes pas, c'est venu tardivement?
Oui, un peu tardivement. De toute façon, j'ai toujours été en retard dans toute ma vie sur beaucoup de choses.
Même pour l'ouverture de la librairie?
Oui, parce que je l'ai ouvert, j'avais presque 50 ans quand j'ai démarré. Donc vous voyez, il a fallu que ça mûrisse pendant un bon moment. Avant, j'avais vécu d'autres aventures, très variées d'ailleurs. Et je pense que c'est aussi ce qui fait une certaine force dans la manière d'aborder le livre, parce qu'on l'aborde non pas en tant qu'objet de collection, comme on disait tout à l'heure, ou quelque chose de tourné vers le passé, mais qu'il est en lien avec la vie. Et il faut avoir vécu pour que le livre... quand on s'occupe de livres, il soit en rapport avec la vie. Et ça, c'est pour moi très très important. C'est pour ça que j'ai du livre ancien, parce qu'il y a des gens qui aiment le livre ancien. J'ai du livre de poche, parce qu'il y a des gens qui lisent, qui ne sont pas des collectionneurs, mais des lecteurs. Et que la vie est extrêmement variée, et que donc les gens sont très différents, et qu'il faut que... Voilà, il y en ait pour tout le monde. Très rapidement. Hein, c'est...
Voilà. Oui, donc la proximité pour vous entre livre et vivre, c'est pas juste une lettre, c'est beaucoup plus que ça.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous rapprochez ces deux mots, et à la fin de la semaine, je serai à Saint-Ambroise, dans le Gard, où une association très très dynamique organise chaque année un salon qui s'appelle Vivre Livre.
Vivre Livre,
voilà.
D'accord. Et on pourra rajouter Libre pour compléter le trio.
Tout à fait.
Oui, alors justement, dans votre petit livre qui s'appelle « Les yeux n'usent pas le papier », vous dites « Le bouquiniste, c'est un généraliste par définition ». Et il apprend de ses clients qui sont spécialistes.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a une typologie du client, étant donné qu'ils sont spécialistes, ils ont chacun leur domaine, ou bien ils viennent le nez au vent ?
Là, je parle de certains clients qui sont, par exemple, déjà certains collectionneurs, Et ça, on en a encore un certain nombre, moins qu'avant, mais on en a encore.
Des bibliophiles.
Oui, les bibliophiles. Ou des collectionneurs dans un domaine très particulier. Ça peut être les chemins de fer, ça peut être je ne sais plus quelles...
Les bonnes manières.
Plantes,
hein, ou les bonnes manières.
Oui, oui, voilà. ces gens-là, en général, connaissent bien leur affaire. Et bah, il suffit d'avoir des oreilles et d'écouter ce qu'ils disent. Des fois, ils sont un peu pénibles, parce que les collectionneurs sont des gens souvent un peu pénibles.
Un peu polarisés.
Un peu polarisés, et puis des fois, ils aiment bien étaler leur science aussi.
Un peu obsessionnel.
Voilà, obsessionnel. moi, il faut que je puisse établir un dialogue avec tout le monde. Donc, je suis un généraliste, et les collectionneurs alimente mes connaissances dans un peu tous les domaines et petit à petit j'arrive à pouvoir, je suis pas aussi fort qu'eux, mais avoir leur langage, disons, pouvoir être dans leur monde. Voilà.
Oui, vous dites que vous apprenez de vos
oui,
clients
tout à fait.
Spécialistes.
Tout à fait.
Et vous dites aussi quelque part que vous êtes la dernière bouquinerie généraliste de Montpellier. Alors, est-ce que c'est un titre de fierté ou est-ce qu'il faut le déplorer?
Les deux à la fois, comme dirait notre président.
En même temps.
Non, ça je le déplore parce que c'est une perte pour le livre, hein, de toute façon. J'en suis content par certains côtés parce que ça m'apporte la clientèle. Mais on a aussi une très grande librairie généraliste qui est le marché au livre qui avait lieu jusqu'à pas longtemps tous les samedis à l'Esplanade. Et qui actuellement s'est reporté sur le mercredi. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et le marché du samedi a été modifié pour des raisons de sécurité. Et donc jusqu'à Noël, on a un marché le mercredi sur l'Esplanade.
L'Esplanade des Arceaux.
Charles de Gaulle. Non,
Charles de Gaulle. D'accord.
Le prolongement de la
comédie. Aux Arceaux, le samedi matin, il y a un marché de collection, ce qu'on appelle le marché des collectionneurs, où il y a aussi des timbres, et puis des livres. Voilà, c'est un marché associatif. Alors que celui de l'Esplanade est un marché professionnel.
D'accord.
Voilà. Où est-ce qu'on en était?
Voilà, on parlait
de, bâton rompu,
de la dernière...
Des généralistes, ah oui, alors des spécialistes la dernière librairie, du côté des bouquineries.
Oui, parce que j'ai encore deux collègues en boutique, mais qui sont plus spécialisés dans le livre ancien ou le livre régionaliste, comme Madame la librairie Claire, par exemple, ou Anagramme, qui est plus beau livre, livre ancien, quoi.
Alors, la clientèle, on dit, voilà, vous nous dites, il y a une clientèle qui est très ouverte. Dans cette ouverture, qu'est-ce que vous repérez, qu'est-ce que vous appréciez, vous, qu'il y a peut-être des clients qui vous intéressent plus que d'autres, avec qui le courant passe mieux. Alors, qui vient dans une bouquinerie? Parce que beaucoup de gens ne s'autorisent pas à y venir, ou ne savent même pas que ça existe, et qui pourtant pourraient y trouver des trésors.
Alors... Voilà. Je ne sais pas, il faudrait peut-être faire une étude sociologique sur la question. Ouais. C'est ouvert. pour ma part, je n'aurais qu'un œil très, très particulier, hein, puisque c'est ceux qui fréquentent ma librairie que je connais. C'est très varié. Alors, et ça a évolué. En 25 ans, j'ai vu une très grande évolution. On a eu beaucoup de collectionneurs. Quand j'ai démarré dans les années 90, on avait beaucoup de collectionneurs, de gens qui cherchaient des beaux livres, des gens... ces gens-là, maintenant, il y en a la moitié au moins qui ont disparu, soit qui sont décédés, soit... Ou qui n'ont plus les mêmes centres d'intérêt, je ne sais pas exactement, mais on ne les voit quasiment plus. Par contre,
la clientèle des bibliothèques, ce qu'on appelait les bibliophiles,
de bibliophilie a énormément diminué. Je ne dirais pas qu'elle a disparu, mais qu'elle a énormément diminué. Par contre, les livres de bibliophilie, du coup, se sont retrouvés en masse sur le marché.
Parce qu'ils ne trouvent plus acheteurs.
De moins en moins, oui, bien sûr. Il y a une histoire de...
Il y a peut-être la concurrence d'Internet aussi.
Aussi, oui, bien sûr. Alors, la concurrence d'Internet, oui, bien sûr. Je ne la connais pas bien. Je ne pourrais, je pourrais pas trop en parler, la concurrence d'Internet. J'ai des collègues qui travaillent beaucoup sur Internet. Moi-même, j'ai 3000 et quelques bouquins qui sont sur le site Livreur Artbook. Hein. Mais je vends très peu sur Internet. J'essaye de mettre les livres qui sont un petit peu rares, que moi je considère un peu comme rares, comme un peu exceptionnels. Voilà, parce que si sinon, pour le mettre au milieu de 50 autres livres identiques, c'est pas la peine de perdre du temps. Quoi. Mm-hmm. Il vaut mieux lire à ce moment-là.
Oui, alors les choses, qu'est-ce que vous avez pour vous, c'est quoi des choses un peu rares, un peu exceptionnelles? Est-ce qu'il y en a qui, là, dans la librairie, qui vous, dont vous êtes particulièrement fier ou qui ont éveillé particulièrement votre curiosité? Moi, bon, il y en a un que j'ai vu en rentrant, que vous avez mis presque en présentoir, qui est un livre d'anciennes gravures qui viennent d'Afrique, sur l'Afrique très coloniale.
Ah oui, l'Afrique fantastique.
Là voilà, c'est
le grand bouquin.
Un grand livre, un grand format.
Un grand livre de gravures.
Avec une bonne qualité en plus d'impression des gravures.
Oui, tout à fait. Malheureusement, le brochage laisse un peu à désirer. Il y a quelques pages qui ont tendance à partir. C'est le livre moderne, c'est ça. Et oui, c'est un livre un petit peu exceptionnel parce que il reprend un peu tous les fantasmes de la colonisation, de l'histoire de l'Afrique, ou de l'histoire de l'Afrique telle qu'on l'a vue, surtout au XIXe siècle, hein, essentiellement.
Oui, c'est l'Afrique de Jules Verne, hein, en gros, qu'on voit.
Oui, ben voilà, tout le. D'ailleurs, puisque vous parlez de ce livre-là et qu'on parle du XIXe siècle, moi, le XIXe siècle est un siècle qui me fascine. Parce qu'il a été un grand siècle d'ouverture vers le monde, avec les colonisations diverses et variées, et puis vers la science aussi, parce que c'était le grand siècle de la science, de la technique, etc. Et c'est toujours très intéressant de comparer la vision du monde qu'on avait à cette époque-là avec cette notion de progrès qu'on remet tellement en cause maintenant, parce que le progrès, c'est quoi? Est-ce que c'est forcément d'aller toujours de l'avant? Et on voit ce que ça donne sur le plan écologique actuellement, par exemple. À l'époque, c'était vraiment la grande période de découverte, et les esprits étaient façonnés là-dedans, quoi.
Une croyance au progrès.
Oui, bien sûr. Il faut dire qu'on partait de loin aussi, hein, les gamins. Mais on est arrivé aussi, le progrès, ce n'était pas pour tout le monde, parce que les gamins dans les mines ou dans les tissages de Liverpool ou du nord de la France, c'était ça aussi, hein, le progrès.
On évoque les gravures et puis l'époque du 19e siècle, je crois que c'était Gustave Doré qui avait fait une série de gravures sur Londres qui montrait toute cette misère de l'Angleterre industrielle.
Oui. On a l'impression d'être avec... comment il s'appelle, Salgado,
le grand photographe. Oui, comme les photos de Salgado au Brésil.
Alors, j'ai eu l'impression aussi que finalement, le bouquiniste et le client affrontent quand même un peu les mêmes problématiques. C'est-à-dire que vous dites quelque part, comment s'arrêter d'acheter? J'ai beaucoup acheté quand on m'a porté des cartons, des bibliothèques, etc. Et là, je refuse plusieurs fois par jour. Mais si, il ne faut pas qu'on ouvre le carton, parce que si je vois les livres, je suis fichu. Donc nous, on est un peu pareil. Moi, si je vois et que je touche, je finis en général par acheter quelque chose. Et puis ailleurs, vous dites aussi comment jeter. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a le pour et le contre. Vous parlez de toute notre culture d'enfance où le livre est l'objet sacré. Mmh. Et en même temps, vous dites qu'il y a peut-être des choses, des livres qui sont dont on ferait bien de se débarrasser.
Et vous parlez même carrément de salubrité publique pour jeter certains livres.
Et nous, on a un peu la même problématique en tant qu'individu.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai été éduqué effectivement dans le culte du livre avec un grand L.
On ne jette pas un livre, on ne jette pas de pain et on ne jette pas un livre.
On garde le pain pour le lendemain, on garde le livre. Voilà, c'est.
Et pourtant.
Bien. Alors, comme vous dites, il y a le pour et le contre.
C'est vous qui le dites.
Oui, peut-être. le livre, dans la mesure où il va apporter quelque chose de positif, d'ouverture d'esprit, à des gens, qui va les faire progresser, puisqu'on était tout à l'heure dans la notion de progrès, mais moi je parle du progrès de la personne, quand même, progrès intellectuel, spirituel, etc. Là-dessus, moi je suis extrêmement ouvert, parce que chacun a sa manière aussi de progresser. On n'est pas tous pareils, on n'est pas... Là-dessus, je suis très ouvert. Par contre, là où je serai un peu plus dur, ça sera par rapport aux livres qui sont uniquement des objets de commerce.
De consommation.
De consommation.
Rapide.
Rapide, qui sortent avec un gros battage publicitaire, qui doivent être vendus dans les 2 mois, qui vont rapporter beaucoup d'argent à un éditeur. Mais après, une fois que vous les aurez lus... Au fait, ça parlait de quoi? Qu'est-ce que c'était?
Qu'est-ce que j'en fais?
Et voilà. Et puis après, qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'ils prennent beaucoup de place aussi, ces livres. Et écologiquement, c'est pas bon.
Oui, non. Quand vous dites ça, ça me fait penser à des échanges avec des libraires, une grande chaîne que je ne nommerai pas. En gros, si c'est pas parti dans les 2 mois, de toute façon, ils ne recommanderont pas. Et puis, ils en recommanderont une fois. Et puis après, c'est terminé.
Bah oui.
Le livre, la durée de vie du livre est très très courte, quoi. Ça rentre pas dans le fond.
Oui. Alors moi, ça m'arrive d'avoir des livres que j'ai depuis l'ouverture de ma librairie, que j'ai encore. Et j'attends la personne la rencontre qui va se faire entre ce livre et cette personne. Et j'ai une certaine confiance. Mais c'est pour ça que je suis aussi obligé d'en refuser tous les jours, puisque il faut que je garde
un fond... De valeur.
De valeur, ouais, une certaine valeur pour moi, qui est une valeur d'ouverture surtout, de curiosité. Mmh. Pour moi, la base, si vous voulez, pour moi, un client, c'est un curieux. C'est quelqu'un qui...
C'est une jolie définition, ça.
Il y avait comme ça une belle image, je trouvais, dans votre petit livre, à un moment donné, ça m'a fait venir cette image-là. Je me suis dit, mais on est un peu comme dans une espèce de salle d'attente, où il y a plein de livres qui attendent leur lecteur.
Oui, oui, tout à fait.
Et qui, du coin de leur table, essayent de faire signe au lecteur. Prends-moi. Ouais.
Alors, des fois, j'aide un petit peu, des fois. Hein.
C'est votre travail aussi.
Un coin, je dis, tiens, celui-là, dans le rayon, il apparaîtra pas, il ne sera pas visible. Il faut que je l'aide un petit peu à se mettre en valeur, parce que sinon, il va rester dans son coin. Et moi, je veux l'aider, parce que je trouve qu'il est intéressant.
Il y a cette très jolie anecdote que vous racontez sur un salon. Vous avez une jeune fille qui est avec ses parents et qui est tentée par la poésie d'Éluard. Ouais. Et qu'il prend une fois et puis hop, on va ailleurs, elle le repose, elle revient une deuxième fois.
Il est trop cher. Et ses parents,
c'est pas possible. Et vous dites, l'envie que vous avez eue, presque envie de la rappeler pour lui donner... Ouais. Et qu'aujourd'hui, vous n'avez que des regrets, que le livre, il est toujours là, quoi.
Oh non, il n'est plus
là. J'imagine qu'il a trouvé d'autres preneurs.
Oui, il l'a trouvé.
Mais pendant un temps, en tout cas, il a raté l'occasion d'adoption.
Elle le montre à sa sœur, elle le repose.
Voilà, oui. Ça m'a beaucoup ému, cette demi-rencontre, cette rencontre ratée. Voilà. Mm-hmm.
Il y a beaucoup de rencontres réussies, j'imagine.
Ah bah oui, heureusement.
Aussi. Les plus belles, ça a été quoi pour vous, ces plus belles rencontres réussies
Les rencontres réussies, c'est pas forcément avec des acheteurs. Ça peut être avec des vendeurs aussi. Ouais. Des gens chez qui je vais acheter des livres. Comme ce vieux monsieur allemand là dont je parle, là, ce vieux docteur qui préparait sa
fin. Oui, qui petit à petit, lot par lot, comme ça.
Voilà, et... récemment, j'ai eu encore une rencontre très, très émouvante avec une dame qui avait perdu son compagnon et qui liquidait sa bibliothèque. Et c'était avant de quitter Montpellier. Et c'est des rencontres où on n'est pas simplement quelqu'un qui va... Il faut créer un lien aussi avec la personne, sinon c'est pas la peine.
C'était la dame qui disait « Je peux pas jeter les livres de mon mari, j'aurais l'impression de le jeter lui ».
Ça c'était un monsieur, c'était son père. Il donnait les livres de son père et il m'a dit ça.
Il disait je peux pas les jeter.
Voilà.
Ce serait comme de jeter lui.
Oui. Non, non, cette dame, elle pouvait plus supporter d'être au contact des livres qu'avait collectionnés, aimés, lus son mari, etc. Pour elle, c'était vraiment une partie d'elle-même, quoi,
Alors, qu'est-ce qui peut vous conduire, alors vous dites à un moment donné, il faut savoir refuser les livres, de votre place de libraire.
Il faut un certain tact aussi.
Oui, j'imagine, voilà, justement.
Je leur dis pas, c'est dame.
Qu'est-ce que c'est? Comment Sur quels critères? Si c'est possible d'en avoir, j'imagine qu'ils sont multiples. En tout cas, vous en faites état qu'ils sont, que c'est un peu compliqué. Mm-hmm. Et puis, comment ça se passe quand vous... Voilà, quelqu'un qui pense vous amener un trésor, et puis... ça n'a pas vraiment d'intérêt.
Oui, voilà. Vous dites bien pour vous. Parce que ça peut être un trésor pour quelqu'un d'autre.
Ça pourrait être un trésor pour quelqu'un d'autre.
Là, je n'ai pas de jugement là-dessus. Simplement, c'est que je dois avoir, je pense, une certaine idée de mon métier, de mon magasin, de ce que j'ai envie d'y mettre et pas ou pas. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a le côté commercial, quoi. Les gens m'apportent des choses qui sont invendables. Ou alors que mes clients trouveront pour 1 € au plus le dimanche. Ils en trouveront 10, c'est pas la peine que moi je les mette à 10 € dans mon rayon.
Ça vaut pas la peine.
Donc ça, c'est cet aspect-là aussi, parce que voilà, il faut...
Ah oui,
je paye un loyer, et puis il faut essayer de gagner un peu de sous quand même si notre profession n'est pas...
Oui, vous dites que votre travail, c'est une sorte de réconciliation de l'intellectuel, du commerçant... Et du manuel. Et j'aurais envie d'ajouter, et du pédestre, parce qu'on en fait des kilomètres avec des livres dans les bras, des cartons.
Ah ben oui, c'est le manuel, le côté manuel, quoi, c'est vrai, le côté...
Voilà, les mains, les pieds, voilà, le cerveau, et la tirelire.
Le maoïsme appliqué, hein, je disais, quelque part, je crois.
Pas jusqu'au bout.
Non, pas jusqu'au bout.
Sinon, les livres passeraient mauvais gardien.
Une certaine... c'est aussi rejoindre l'honnête homme de Pascal, ou de... essayer de... C'est peut-être très, très ambitieux et impossible de joindre ce qui fait un homme, quoi. La totalité, c'est-à-dire l'intellect, la spiritualité, la morale, le physique. Voilà, c'est un ensemble qu'il faut tenir par un peu tous les bouts et essayer de...
Peut-être objectif impossible à atteindre, mais nécessaire à poursuivre.
Oui. Un peu présomptueux quand même.
Oui, mais heureusement.
Oui, mais il faut se fixer un but. Hein.
Sinon,
même si on ne l'atteint jamais.
Alors, une librairie aussi qui est... Alors, ça déborde.
Oui, il y a un garage que vous ne voyez pas aussi.
Et en plus, il y a un garage qu'on ne voit pas.
Que je suis obligé de louer pour mettre...
Je n'ai pas décrit pour l'instant la librairie, mais voilà. On a 2 pièces. Et puis alors, on voit... La vue est tout de suite coupée par des étagères remplies de livres.
Oui, j'essaye quand même qu'elle ne soit pas trop
coupée, voilà, qu'il y ait quand même un peu de lumière.
J'ai des souvenirs de librairies où on se sent complètement écrasé par les étagères qui montent jusqu'au plafond, qui sont... J'ai toujours veillé à ce qu'il y ait quand même de l'air.
Les plus hauts, on peut les attraper. Si on n'est pas trop petit, on peut les attraper.
On a un escabeau,
sans...
une échelle, mais voilà. Qu'on ne soit pas écrasé.
Mais il y a quand même une très belle photo dans votre petit livre, Les yeux n'usent pas le papier, où on ne voit... Moi, elle m'avait beaucoup plu parce qu'on ne voit que des livres.
Oui.
sur des étagères, sur des présentoirs, qui présentent leur tranche.
C'était rajouté par l'éditeur, ce petit...
On ne voit ni le sol, ni le plafond. Mais moi, ça m'étouffe pas. Et il y a une paire de serre-livres, deux petits gamins asiatiques là, qui sont endormis sur les piles
des Bouddhas,
de livres.
Oui, c'est des gens Bouddhas, oui.
Oui, ou Bodhisattva.
Bouddhas masculins et féminins.
Ils ont une histoire?
Ben oui, faut que j'essaye de me souvenir. Ce que je sais, c'est que je les ai achetés séparément.
Ah, d'accord.
Je ne les ai pas eus les deux ensemble.
Pourtant, ils se ressemblent.
Bah oui, ils étaient là, les deux font la paire, comme on dit. Mais
ils sont toujours là, d'ailleurs.
Je crois qu'il y en a un des deux, je l'ai trouvé un jour où j'allais acheter à une bibliothèque chez des gens, etc. Et j'ai demandé si je pouvais le prendre. Et puis le deuxième, j'ai dû le trouver au plus un jour. Et voilà, j'ai dit tiens, il attendait son frère. Et voilà.
Encore
et...
des trouvailles.
Puis j'ai mes petits chiens aussi, vous ne parlez pas de mes petits chiens. Et mes serre-livres.
Dans les serre-livres.
Ils sont, ils sont très sympas. Tous les gens voudraient me les piquer, me les voler, me les acheter.
Ils n'ont pas encore réussi.
Oui, alors, on entend, hein, c'est le, bien sûr le livre-objet. On aura envie de dire, bon, est-ce qu'il faut dire à des fanats de la tablette et de la liseuse d'éviter votre librairie ou au contraire de revenir aux sources ?
Bah, la source, elle est l'écriture, de toute façon. Alors, elle est présente d'une manière ou d'une autre. L'essentiel, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est, voilà, si c'est intéressant, pourquoi pas le lire en tablette. Après, moi, je vois qu'il y a des gens âgés qui, après, se mettent à lire en tablette parce qu'ils peuvent ajuster la taille des caractères, qu'ils ont un meilleur éclairage. Pourquoi pas l'objet livre... Alors, il y a... Je fais partie d'une association qui s'appelle La Mémoire du Livre. Alors, le livre, c'est la mémoire aussi. Mmh. Donc après, maintenant, on a des mémoires dans des petits machins tout petits, etc. On met des kilos de mémoire. Mais pour moi, le livre, il nous renvoie quand même à une mémoire très ancienne. Je ne sais pas comment exprimer ça. Peut-être que vous allez m'aider.
C'est ce petit livre dont Hélène avait envie de parler, dont vous parlez dans votre livre, oui. Hein, sur les tarifs et les conversions des monnaies, hein, écrit par un certain monsieur De Barème.
Oui,
d'où
avec
le terme Barème. On discutait avant de venir, Hélène et moi. Tous les deux, on a appris qu'il y avait un monsieur de Barème.
Eh oui. Comme il y avait un monsieur Poubelle aussi.
Donc, ah oui, ça, je savais. Il y avait
le préfet Poubelle, un ancien préfet de Paris.
Le livre des contes faits.
Mais voilà, ce que vous dites, et ça, je crois que justement, une liseuse ne peut pas le restituer. Il y a ce cuir qui est patiné. On sent toutes les mains qui l'ont ouvert, qui l'ont feuilleté, même s'il y a quelques pages du coup.
Ça a été un outil de travail.
Des tâches. Voilà, je crois que ça répond
sachant
à quelque
qu'il
chose.
A quand même,
on a un objet...
Il a 300 ans.
Qui date de 1710,
voilà.
C'est
oui,
ça.
C'est
oui,
ça.
Moi, j'ai quelques vieux livres à la maison. Il y en a toujours un, ça m'épate. Lorsque je l'ouvre, je me dis, je regarde la date et je me dis, Henri IV n'avait pas encore été assassiné. Ça allait arriver dans très peu de temps.
Oui, tout à fait.
Et le livre, il est toujours là. Je doute que les mémoires informatiques, en 2300, il en reste grand-chose.
Oui, il y a ce que vous dites, mais vous me faites penser à un autre phénomène par rapport à la mémoire, c'est que c'est celle de la quantité d'informations. On a maintenant des quantités innombrables d'informations, mais est-ce qu'on a encore des gens pour les lire, ces informations ? Sinon, ces informations vont être elles-mêmes lues par des machines et on tourne en rond. Ici, on a une information qui était beaucoup moins importante, mais qui avait de la valeur. Donc, on est en train de diluer tout ce qui est l'intelligence. On parle d'intelligence artificielle maintenant, mais je ne sais pas si on arrivera à restituer l'intelligence d'un Montaigne ou d'un Pascal.
Nous n'aurons pas de réponse à cette question, en tout cas pas dans le temps de cette émission, puisqu'on arrive au bout du temps qui nous était imparti. En tout cas, merci beaucoup Pascal Ricard, on sent votre passion et puis on a un lieu où on se sent bien, il faut le dire. Donc j'encourage nos auditeurs à y venir. Alors on va rappeler l'adresse. Enfin, rappelez, on ne l'a pas encore donné, alors on va donner l'adresse.
Alors, c'est au 13 de la rue des Soldats. C'est une petite rue qui se trouve en face de la Sécurité sociale par rapport au cours Gambetta. Il ne faut pas avoir peur en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'échafaudages, donc la librairie est ouverte quand même. Voilà, ils y seront très bien accueillis, nos amis lecteurs.
Et ce sera encore plus beau quand les travaux seront finis.
Voilà.
Voilà, merci beaucoup et on espère que plein de gens viendront et vous rendre
petit,
visite.
Mon petit livre est à disposition aussi.
Et il y a le petit livre, c'est Les yeux n'usent pas le papier, qui vous fera découvrir les coulisses un peu de ce métier et qui voudra certainement envie de venir et revenir dans cette librairie, ne serait-ce que pour échanger avec vous. Merci Pascal Ricard.
Merci beaucoup.
Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.